Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mais à quoi ressemble le nouveau show des Enfoirés? Le premier des 7 spectacles au profit des Restos du Cœur a donc eu lieu hier soir au Zénith de Strasbourg. Steven Bellery était évidemment dans la salle et en coulisses. On le rejoint dans un instant avec beaucoup de surprises. L'édition 2018 du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez a été déclarée ouverte hier par son président, Franck Dubosc. Danny Boone était là avec l'équipe du film La Ch'tite Famille. À suivre le compte-rendu de la soirée avec Stéphane Boutsock, sur place bien entendu, et on détaillera les sorties ciné de ce mercredi. Olivia Leray a préparé pour nous ses express du jour. Et puis à la télévision ce soir sur France 2 à 21h, un téléfilm Une chance sur 6 avec Patrick Sébastien. Isabelle Morini-Bosque l'a rencontré.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Après Strasbourg et les Enfoirés 2018, direction donc la montagne. Bonjour Stéphane Boutsock.
Qu'est-ce que je vous raconte? Je ne suis pas Stéphane Boutsock, moi.
Je vous prie de m'excuser, je me suis trompé. On va retrouver tout de suite à Strasbourg et non pas à l'Alpe d'Huez.
C'est tout
et,
aussi bien.
Mais voilà, bien entendu, merci de m'aider. Direction la montagne. Mais attendez, excusez-moi, mais là j'en suis à ma troisième... Je suis totalement paumé. Alors, Steven Bellery.
Je suis là.
Les Enfoirés.
Attendez.
Oui, alors là, on est mal parti parce que ce que vous m'avez gentiment adressé comme fil de notre émission, je ne l'ai pas encore. Bon, on peut dire juste que hier soir, vous avez participé très largement, merci beaucoup, à cette première soirée, que nous sommes bien dans le Bas-Rhin à Strasbourg et que c'est le programme qui rassemble chaque année, bien entendu, le show des Enfoirés, le plus téléspectateur à la télévision. Oui. Le concert annuel des Enfoirés a donc été enregistré ce week-end, mais la série de 7 concerts a démarré hier soir au Zénith de Strasbourg. Devant plus de 10 000 personnes. Steven, vous avez assisté à ce tout premier show des Enfoirés. Excusez-moi d'avoir mis autant de désordre dans votre début d'intervention.
Je vous en prie, bonjour à tous. En tout cas, ce show démarre par un court clin d'œil à France Gall, puis les Enfoirés débarquent avec cette chanson de Calogero.
4, 3, 2, 1, je joue de la musique, je respire musique.
Ambiance de cirque, des Enfoirés sautent sur des trampolines, d'autres jouent du tambour dans les airs pendant que la troupe sort d'un immense chapeau de magicien. Jennifer raconte.
Il est complètement fou ce tableau d'ouverture. On est tous déguisés en mode circassien, en rouge et blanc, c'est plein de belles lumières, il y a un kabuki qui tombe et puis on découvre tous les Enfoirés avec les danseurs. Il se passe plein de choses, donc pour les yeux ça devrait être amusant. Et émouvant aussi parce qu'il y a des images de Johnny en fond derrière avec Coluche. Nous ça nous a pris les tripes, là on a découvert sur les répétitions. Oh là là, et ben, on a tous pleuré, hein. On a tous pleuré.
Et les Enfoirés ont réservé de nombreux moments de douceur depuis l'an dernier. C'est leur volonté de laisser s'installer l'émotion. Vous verrez par exemple Amel Bent vibrer sur Memory de Barbara Streisand dans un décor néo-baroque.
Je chante avec ma tati Liane Frouli. Bah, on n'a jamais vraiment eu la chance et l'occasion de chanter ensemble. Et finalement, bah voilà, je trouve en toute humilité que ça se marie merveilleusement bien. Je prends un plaisir infini à chanter cette chanson avec Liane. La chanson, je l'adore. Puis voilà, Memories, quand on traduit un petit peu le texte, voilà, on parle des souvenirs heureux du passé. Et puis c'est vrai que le temps s'est un peu arrêté quand on a fait Memory. Et puis avec Marie-Agnès qui nous a rejoint aujourd'hui et qu'on a eu la chance de voir danser pendant qu'on chantait. Voilà, ça fait partie de ces moments magiques qu'on ne vit qu'ici.
Dites-moi Steven, Marie-Agnès Gillot est vraiment devenue une enfoirée à part entière?
Oui, elle participe au concert pour la 3e fois. L'étoile de 42 ans fera ses adieux à l'Opéra de Paris fin mars. Elle a donc voulu marquer le coup avec les Enfoirés accompagnés du premier danseur de l'opéra, Vincent Chaillet.
Alors cette année, en fait, on a un tableau qui est sur le fantôme de l'opéra, une vieille danseuse qui fait ses adieux. Donc ce qui me rappelait un petit peu mes prochains mois. Comme les vieilles danseuses, en général, elles se font porter en fin de carrière. Je me suis dit que c'était une blague bien faite et bien vue. Donc j'ai pris un pote qui est un très très bon danseur, lui par contre, qui n'est pas en fin de vie. Donc je vous passe Vincent Chaillet.
Voilà, c'est montrer la danse dans d'autres conditions, à un autre public. Depuis que je suis tout petit, je regardais les restos et les Enfoirés tous les ans à la télé. Et là, bah, pour la première fois, je suis de l'autre côté du rideau. C'est top. Grâce à Marie-Agnès.
Ce sera l'un des moments les plus poétiques du show. D'autres tableaux m'ont ému. Je retiens la reprise de Néon 17 à Heiligenstadt de Jean-Jacques Goldman ou celle de Comme ils disent, enregistrée en 1972 par Aznavour. Patrick Bruel sera l'une des voix de ce tableau sans décor.
C'est une chanson qui est dans le cœur de tout le monde, qui était une chanson extrêmement audacieuse. Quand Aznavour l'a sortie, qui défendait l'identité, la cause homosexuelle, avec une élégance et un brio extraordinaire. Donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir défendre cette chanson dans les Restos du cœur. Ça représente quelque chose aussi, et la mise en scène est assez fine. On est tout en blanc avec un gant qui, avec un visage plus féminin derrière lequel on s'abrite.
Moi les lasis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme haut, comme ils disent.
Une autre grande chanson du patrimoine est à l'affiche de ce nouveau spectacle. Il s'agit de Vesoul de Jacques Brel, mêlé à Je m'en vais de Vianney, tableau où les enfoirés iront de gare en gare jusqu'à Strasbourg.
Est-ce qu'il y a des moments plus énergiques dans ce nouveau spectacle des Enfoirés, Steven ?
Bien sûr, la joyeuse troupe a revisité Chocolat du rappeur L'Artiste, I'll Be Standing d'Elton John, Vivre ou survivre de Balavoine, avec une voiture au milieu de la scène ou au milieu d'un des deux medley, un tube de Jean-Pierre François qui a surpris un certain Christophe Willem.
Bah là, Je te survivrai par exemple, je chante ça. Je pensais pas un jour chanter cette chanson, mais on se rend compte que mélodiquement ça rentre dans la tête. C'est ça qui est assez drôle quand on fait les Enfoirés, c'est qu'on se dit quand même cette chanson, c'est quand même pas osé. Et puis on la chante, on dit ah bah quand même, c'est pour ça que c'est devenu un tube en fait.
Fin de concert, les Enfoirés ont évidemment interprété leur hymne 2018, ont fait le show signé Soprano, une chanson qu'adore Amir.
Soprano a pu décrire avec poésie la mission des Enfoirés, allumer ces bougies qu'on a laissées dans le noir en faisant allusion aux personnes qui sont dans le besoin et nous qui sommes artistes sur scène, entourés d'étoiles et je me sens comme sur un nuage. Il a fait de très très belles phrases qui décrivent ce que c'est que d'être un enfoiré, de faire ce spectacle pour les autres. Il y a des messages subliminaux qui ressortent de cette chanson et qui nous apportent une espèce de fierté supplémentaire, une cohésion entre nous et une cohésion avec la mission.
Côté costume, un petit peu plus de sobriété cette année. Côté humour, le retour de Mimi Mati et la fraîcheur de la bande à Fifi révélée dans Babysitting, qui n'a pas hésité à se mettre à nu, vous verrez cela. Impression juste en sortant de scène après la chanson des Restos d'Élodie Fontan et Philippe Lachaud.
On avait tous les larmes aux yeux à la fin. Le fait de chanter cette chanson avec tous les bénévoles des Restos du Cœur, devant ces gens qui viennent pour cette cause si admirable. Il se passe un truc magique où on avait tous envie de chialer à la fin.
Ah oui, il y a une magie, moi j'avais les poils. Ouais, tu ressors, c'est fort.
À une heure d'ouvrir le guichet, on n'avait même pas fini de répéter, on savait la moitié et tout, et en fait tu pars.
Et ben tu te laisses aller, et puis voilà, t'es avec le public, et tout se passe bien, tu vois, au final.
Musique, le nouveau spectacle des Enfoirés sera diffusé sur RTL et TF1 début mars, avec les vrais extraits évidemment, parce que pour garder la surprise, on met les chansons originales.
Merci beaucoup Steven Bédry pour ce reportage en exclusivité et en direct de Strasbourg pour RTL. Dans quelques instants, nos audiences télévisées de la veille et ensuite on part vraiment cette fois-ci à l'Alpe d'Huez.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Très bonne journée à l'écoute d'RTL, il est 9h09. Maintenant on va faire un petit tour du côté de ce que nous avons regardé à la télévision hier soir avec Médiamétrie et surtout avec vous Isabelle Morini-Boz.
Eh bien je suis très contente car qui est en tête à votre avis des audiences ? Eh bien le téléfilm de France 3 de Jacques Santamaria avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix, quelque chose a changé. 4 400 000 téléspectateurs et 18% du public, c'est un très gros score. C'est quasiment 300 000 de plus que le retour du Jedi, si je peux me permettre cette comparaison, sur TF1. 4 050 000, même un tout petit peu moins, et 19%. du public télé, oui.
Bravo,
et
Cache,
oui, absolument. Et Cache Investigation a très bien marché également sur France 2 parce que près de 3 600 000 téléspectateurs, c'est pas mal du tout. 16% du public sur la 2. Et alors, côté TNT, ben, retour aux fondamentaux, NT1, Joséphine Ange Gardien, près de 800 000 téléspectateurs. C'est tout ce que j'avais à dire.
Oui, on se retrouve à la fin de l'émission pour votre sélection, excusez-moi, d'émissions pour ce soir. En l'occurrence, on parlera de Patrick Sébastien.
Oui.
Alors, cette fois-ci, on va vraiment partir à la montagne avec Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
On va parler avec vous dans un instant de l'ouverture de la 21e édition du Festival international du film dit de comédie de l'Alpe d'Huez. Mais d'abord, on va jeter notre coup d'œil du mercredi sur le box-office et les entrées en salle.
Alors, pas de bouleversement en tête d'après les chiffres de nos amis du site cbo.fr pour les nouveautés. Downsizing avec Matt Damon a démarré autour de 270 000 entrées. Devant Normandie Nue, film RTL avec François Cluzet, 250 000. Pour les poids lourds, Les Derniers Jedi atteignent les 6 750 000. Coco a largement dépassé les 4 millions et Jumanji la barre des 2,6 millions. Cette comédie d'action avec Dwayne Johnson est le succès surprise des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs.
Alors, de la comédie, vous allez en voir pour nous jusqu'à dimanche puisque vous êtes à 1 800 mètres d'altitude, sur les sommets de l'Isère, pour l'édition 2018 du Festival de l'Alpe d'Huez.
Oui, je peux vous dire, dans le vent et la tempête depuis cette nuit, ça a bien bien soufflé. Plus que jamais, la comédie, c'est le rendez-vous du genre cinématographique préféré des Français. On rappelle que le plus gros succès tricolore 2017 a été Red Dingue 2 et avec Danny Boone. Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, pour l'ouverture du festival, c'est le nouveau film de et avec Danny Boone qui a créé l'événement.
Je vais vous demander d'accueillir Danny Boone ainsi que l'équipe du film Laurent Sarnet, Valérie Bonneton et Guy Lepuix.
La petite famille projetée devant le public du Palais de l'Alpe d'Huez en présence d'une partie de l'équipe du film, dont évidemment l'acteur, réalisateur, auteur, producteur, Danny Boone.
Je le fais avec plaisir, quoi. Il y a une ambiance formidable dans ce festival. Je pense que c'est un des seuls festivals d'humour, enfin de films d'humour qu'on ait. C'est chouette de découvrir des premiers films, des jeunes artistes. C'est bien de faire l'ouverture, évidemment. Je peux pas être en compète. Je peux plus.
Alors, on rappelle Stéphane que La Ch'tite Famille n'est pas une suite de Bienvenue chez les Ch'tis. Hein.
Ah bah non. 10 ans après, Danny Boone a eu envie de tourner à nouveau dans sa région pour raconter une autre histoire qui parle de racines, de famille, de pardon, une comédie tendre qui a fait rire le public hier soir, mais là aussi touché. C'était assez surprenant d'être dans la salle. J'ai demandé à Danny s'il avait le sentiment de remettre son titre d'amuseur public numéro 1 en jeu.
Je me dis pas, faut que je remette mon titre en jeu. J'ai pas le sentiment d'être le numéro 1 de quoi que ce soit. J'ai le sentiment de raconter des histoires. J'ai entendu les rires, je les ai vus bouleversés. J'ai vu les gens gênés essuyer leurs larmes pendant la projo. J'adore. Mon prix, ma récompense, c'est ça, en fait. C'est de voir les gens pris dans l'histoire, qu'ils soient 200, 1000, 1 million, 2 millions. Pour moi, c'est la même chose. Après, c'est sûr que quand les films marchent très fort, j'ai plus de liberté pour faire le suivant. Il y a plus d'argent, plus de liberté, donc c'est une bonne chose. Le reste, on s'en fout. Le reste, sincèrement, hein, parce que les gens, je croise des gens, ils me disent « Alors, La Ch'tite Famille, tout ça, ça va être super. » Je dis « J'espère. » Ils me disent « Ah oui, moi j'adore vos films, tout ça. Je suis sûr que je serai pas déçu. » Je fais bon, « Et c'est un truc pour moi qui est super important. C'est très difficile de réussir un film et de surprendre avec quelque chose de différent sans décevoir. C'est jamais évident. Si un jour j'écris quelque chose et je me dis « Non, ça me va pas », j'arrête. Je le mets de côté, je passe à autre chose.
Alors figurez-vous que Danny m'a aussi parlé de ses projets. Un prochain film de réalisateur, tournage janvier 2019. D'ici là, écoutez bien, un projet avec Guillaume Gallienne devant la caméra de Djalil Lespers. On va suivre ça de près. Et peut-être une suite à Radin, gros succès de l'année 2016. La Ch'tite Famille, notez bien, sortira au cinéma avec RTL le 28 février. C'était donc le film d'ouverture ici. Premier d'une série d'avant-première. On verra notamment Les Tuches 3. Je suis très impatient, c'est demain. Le retour du héros avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent en clôture, Les Aventures de Spiro et Fantasio cet après-midi, et puis côté compétition notamment, la première comédie de Sophie Marceau, réalisatrice, Mrs. Mills, une voisine si parfaite avec elle-même et Pierre Richard, ou encore la finale avec Thierry Lhermitte, Le Doudou avec Cannes Mérade, Largué avec Miu Miu et Camille Cotin, Je vais mieux avec Harry Habitant et Eric Elmosino, et il se dit que dimanche, avant de partir, nous pourrions même voir les premières images de Taxi 5. Vous le voyez, programme aussi copieux qu'une fondue savoyarde saupoudrée de tartiflettes.
Et pour déguster tout cela, un jury présidé par Franck Dubosc.
Oui, qui succédait à Omar Sy, entouré dans son jury de Christophe Lambert, Arnaud Ducret, Rim Kérissi et Audrey Dana. J'ai rencontré le président Dubosc, ravi de son nouveau poste.
On me l'avait jamais proposé, hein, mais de toute façon, j'avais pas beaucoup de temps parce qu'il faut être disponible toute la semaine. Là, je vous avoue que l'année dernière, quand j'ai fait mon emploi du temps, j'ai demandé à tous ceux qui s'en occupaient de me rendre libre pour la semaine de l'Alpe d'Huez au cas où. Le cas où est arrivé et on m'a proposé et donc voilà. Alors le mot président est très, c'est président du jury. Je suis pas président de l'Alpe d'Huez ni même de la France ni de nulle part ailleurs. Allez, je suis le chef-tin d'un groupe de jurés, même si on va tuer personne. Mais ça me plaît bien que le mot soit fort, moi.
Alors, le chef-tin Dubosc présentera ici hors compétition son premier film de réalisateur, Tout le monde debout, qui parle de handicap, d'amour et de mensonges. Mais pendant 4 jours, bah, c'est lui qui va devoir juger le travail des autres.
Pour moi, ils ont tous gagné, c'est pas l'école des fans, mais déjà d'oser proposer d'aller dans la direction de l'humour, c'est déjà très courageux. Quand on veut réaliser, quand on veut jouer, parce qu'on sait que c'est pas dans le cinéma l'art le plus considéré comme le plus noble. Enfin, c'est pas la partie la plus noble, la comédie. C'est le même temps de travail, si ce n'est plus long. C'est la même implication, c'est le même stress. Tout est pareil que si on travaillait dans le drame, mais on sait que c'est le parent pauvre. Donc c'est déjà très courageux. Et déjà, moi, je dis bravo à tous ceux qui ont leur film là-bas et qui sont en compétition, parce que c'est bien qu'il y ait la compétition. Ça donne envie à tous les producteurs, à tous les distributeurs d'avoir leur film et d'envoyer leur film à l'Alpe d'Huez. Donc ça donne un truc tendu, ça donne un intérêt à un festival qui est pas spécialement bienveillant, parce que bienveillant, ça voudrait dire tout le monde est bon et tout ça, non, mais qui est super agréable, quoi. Il a vraiment, c'est pas un festival qui se prend la tête.
Le président de ce 21e festival du film international de comédie, Franck Dubosc, le palmarès, ça sera samedi soir.
Des comédies Stéphane, il en sort aujourd'hui sur nos écrans, mais cette fois-ci partout en France. Hein.
Oui, on rappelle Brillantissime avec Michel Larocque, qui était notre invité vendredi dernier, à voir aussi Ami de Victor Saint-Macary, énième histoire, elle est sympathique sur un garçon et une fille qui sont colocataires et peut-être un petit peu plus. Dans un tout autre genre, on rappelle In the Fade avec Diane Kruger, on en parlait lundi, et puis deux films très vite, beaucoup plus grave, qui s'appelle Le rire de ma mère, avec Pascal de Molon, acteur de comédie pourtant, mais aussi Suzanne Clément, La maladie d'une maman vue à travers les yeux de son petit garçon. Et puis, si vous aimez le football, Les dessous d'un club de foot avec Franck Gastambide, ça s'appelle La surface de réparation, extrêmement intéressant. Deux films qu'on avait vus à Angoulême, et vous voyez, la boucle est bouclée. Et bien, des acteurs qui sont aussi passés ici par l'Alpe d'Huez.
Merci beaucoup Stéphane, une très belle journée de cinéma à la montagne. J'espère que vous pourrez skier un petit peu si la tempête se calme.
Pas sûr.
C'est pas sûr, et puis on vous retrouve demain matin avec votre bonnet et vos moufles depuis l'Alpe d'Huez.
À demain.
Bonne journée.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
À 9h20, on trouve nos Express du jour préparés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
Alors, que donne pour commencer le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express?
Eh bien, je vous donne le premier grand vainqueur de la rentrée de janvier, Pierre Lemaître, avec Couleur de l'incendie, la suite d'Au revoir là-haut, son prix Goncourt 2014. Et puis, il y a aussi Delphine de Vigan avec son nouveau roman, Les Loyautés. Tous deux s'emparent des deux premières places dès leur première semaine de parution. À noter également la belle entrée en 6e position de l'américain Paul Auster et son monumental 4-3-2-1. Plus de 1000 pages pour 4 vies d'un même personnage.
Le palmarès complet est à consulter dans les colonnes de l'Express et nul doute qu'il s'enrichira dès la semaine prochaine d'un autre best-seller. C'est le 4e et dernier tome de L'Ami prodigieuse, la saga phénomène d'Elena Ferrant.
Il sort demain chez Gallimard, intitulé L'Enfant perdu. Ce 4e volume clôt en effet, sauf coup de théâtre, les 60 ans d'amitié entre la blonde Léna et la brune Lila, les deux héroïnes napolitaines créées par la romancière. On ignore d'ailleurs toujours sa réelle identité. Énigme qui explique en partie le succès de cette saga vendue à 10 millions d'exemplaires dans le monde. Et puis Yves, vous faites quoi le week-end du 2 février?
Je ne sais pas encore, c'est moi pas programmé cette histoire.
Ah bon, bah, Isabelle aussi, hein. Je vous invite tous les deux à découvrir un Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Au programme de l'opération Paris face cachée, entre autres, jeu de piste dans l'abri anti-bombardement d'un grand hôpital de la capitale, visite d'une célèbre bibliothèque by night ou des sous-sols d'un musée mythique. Je ne peux pas vous en dire plus. Inscription dès aujourd'hui sur le site Paris face cachée.
Paris face cachée. Et puis, Sylvie Vartan va rendre hommage à Johnny Hallyday sur scène.
Oui, au Grand Rex, le 16 mars prochain, un concert qui va comporter une grande séquence nostalgie consacrée à son amour de jeunesse. Comme toute la France, mon cœur est brisé, c'est ce qu'avait dit Sylvie Vartan après le décès du rocker. Ensuite, elle va partir en tournée en Europe de l'Est et au Japon avant de revenir en France.
Vous êtes
êtes charmante, Isabelle. Alors, merci beaucoup, Olivia Loret, pour ces express qui ont mis en transe Isabelle Morini-Mosque et moi, évidemment, par conséquence. On va parler de nos programmes de ce soir, Isabelle. On signale évidemment la suite de Souviens-toi, c'est sur M6. Hein.
Oui, on vous a beaucoup parlé mercredi dernier de ce feuilleton policier dans lequel une psy, Marie Gillin, s'efforce de faire sortir de son mutisme traumatique une fillette ayant assisté au meurtre de sa famille. C'est avec Samy Bouadjila, en bon flic, bon père. C'est à la fois sombre et lumineux. Vous serez récompensé mercredi prochain avec une vraie fin. Vous verrez, c'est mieux que bien.
La nouveauté, c'est Patrick Sébastien, donc dans le polar de France 2, une chance sur 6.
Polar, mais pas que. C'est un gigolo sexagénaire, Patrick Sébastien, qui s'ennuie dans une société qui l'ennuie. Il vit avec une richissime femme d'affaires qui l'entretient et accepte à temps partiel son homosexualité. Et même si en tant qu'antiquaire, il aime tout ce qui est patiné par le temps, il imagine un crime parfait pour cette compagne qui a 10 ans de plus que lui.
Je suis coupable. Bien sûr que je suis coupable. Mais la question n'est pas de savoir si je le suis. La question est de savoir si tu auras les preuves pour le démontrer. Et ces preuves, tu ne les auras jamais. Jamais.
Commence un jeu d'apparence et d'apparat, de vrais meurtres, de fausses disparitions. Cette esthète a tout prévu, sauf qu'il puisse tomber sur un plus tordu que lui. Avec un rebondissement final vraiment inattendu, à 2 secondes du générique, c'est la marque de fabrique de Patrick Sébastien qui ne fait vraiment pas dans le convenu et le convenable. Ils sont plusieurs là-haut dans sa tête, hein, pas vrai Patrick?
On est plusieurs dans ma tête, oui. Mais c'était le cas dans les deux premières fictions. J'ai une affection particulière pour tous les trucs machiavéliques, voilà, j'adore ça. Il y a même des gens après le premier téléfilm, Max et la rumeur, qui disent mais c'est dangereux ce mec. Non, mais c'est vrai que c'est un truc tordu. C'est une nouvelle, en fait, que j'avais écrite il y a une dizaine d'années. Ça avait même été publié en supplément dans un journal d'été. Puis on a décidé d'en faire une fiction. Donc il faut pas raconter la fin, évidemment. Mais c'est vrai que tout ce qui est machiavélique, ça me ravit. Et c'est la fiction que j'ai envie de faire. Bon, après, c'est pas forcément le lot de la chaîne. Je pense qu'on n'aura pas le droit d'en faire d'autres.
Attendez les scores.
Ouais, non, j'aurais proposé d'autres scénars. Je sais qu'il y a déjà un qui ça plaira pas, c'est normal. Mais tous ceux qui aiment les trucs inattendus, je pense qu'en plus qu'au niveau du jeu, on n'était pas trop mal. Alors, voilà, soit la chaîne va changer d'avis, soit j'irai faire ailleurs.
On verra. C'est parfois perturbant, constamment intéressant. Les puristes accepteront-ils de voir un animateur dans ce rôle? Ils s'en fichent, comme son idole Depardieu trouve que l'important, c'est de faire.
Mais bien sûr, mais c'est mon idole. Il est capable de faire Obélix et Cyrano de Bergerac. Les fans de Cyrano de Bergerac ont peut-être pas envie de voir Obélix, mais moi j'adore ces mecs-là qui prennent des risques. Je préfère être dans cette famille-là. On fait pas tout bien, mais on met de la passion dans nos trucs et puis on essaie d'être originaux. Moi je veux pas être copié ce que font les Anglais ou les Américains. Je veux essayer d'avoir notre patte à nous. Alors c'est sûr qu'il y a certains à qui ça plaira pas. Mais tu sais, je continue mes spectacles. J'ai des milliers de personnes qui viennent chanter et danser sur les sardines. Et puis je fais un nouveau spectacle qui s'appelle Avant que j'oublie tout ce que j'ai jamais pu dire à la télé, qui est un truc intime, avec 3 musiciens acoustiques, des écrans, des sketchs, des choses que je peux pas dire à la télévision. On peut être multiples, hein.
Oui. Il vit le plus possible en province. Il a des potes, on le sait, très éloignés du showbiz. Du biz et du buzz, en fait.
Ça a changé, on est dans le buzz, on est dans le scoop, on est dans l'interdiction. Le moindre mot, la moindre phrase, alors qu'il y a des ordures infinies qui se permettent des saloperies innommables en toute impunité. Alors on peut pas aller contre ce système-là, il est comme ça. Il y a des délateurs devant la télé qui passent leur temps à observer la moindre phrase pour balancer au cessant. Enfin, s'il y avait l'occupation, ils vendraient les mecs, quoi. C'est comme ça, bon. Quant à la télévision, je sais pas si on veut de moi, si on me veut plus, je verrai. J'ai réussi quand même à convaincre la chaîne de me remplacer de cabaret par 2 années bonheur. Ils m'ont pas offert les années bonheur en plus. Hein. J'ai remplacé. Ça me rapportera moins, mais j'avais envie de le faire parce que les spectateurs aiment bien. J'ai pas de valeur marchande. Je pense que j'ai une valeur artistique avec des hauts et des bas, des choses que les gens aiment et que les gens aiment pas. D'être insaisissable, ça me plaît beaucoup. C'est vrai qu'entre les sardines et le téléfilm, il y a un fossé énorme, mais en même temps, c'est la même personne. Et le jour où on prendra un peu plus de distance sur les a priori, je crois que ça marchera beaucoup mieux.
Voilà, c'est donc à 20h55 sur France 2. C'est très très bien écrit, c'est réalisé par Jacques Malater. C'est très très bien écrit, il y a d'excellents dialogues, presque trop riches. Alors on sent qu'il a tout mis dedans et des fois on a envie de lui dire, tu sais, on sait que t'en as sous le pied, vas-y mollo.
Une chance sur 6. C'est intéressant. Avec Patrick Sébastien. Ce soir, le téléfilm est sur France 2. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosse. Dans quelques instants, bon, on se retrouve, on se dit au revoir et on accueille Julien Courbet pour son émission. On a passé un excellent moment ensemble, hein, les filles. Ah bah voilà.
Bah oui.
Donc c'est avec plaisir que nous accueillons maintenant Julien Courbet. Bonjour Julien.
Bonjour Monsieur Yves Calvi.
Vous savez que j'adore être votre colonne Maurice. Moi, c'est annoncer vos spectacles.
J'adore ça.
Alors vous partez en tournée avec votre spectacle Jeune et Jolie et dès samedi, boum, ça repart à Tours.
À Tours, effectivement. Ben, si vous connaissez un petit peu Tours.
Un tout petit peu. Oui.
Eh bien, il vous attend. Il me parle beaucoup de vous à chaque fois que je vais.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, j'aime bien. Et puis il y a des bons vins là-bas à boire.
Ah, je sais. Alors là, c'est une région de vin que j'aime beaucoup.
Eh bien, je le transmettrai votre bonjour à tout le monde là-bas. À Tours. retour samedi soir, d'accord?
Vous êtes bien aimable, faites-nous une belle émission.
Excusez-moi de vous signaler qu'une nouvelle fois, vous avez été excellent ce matin. Voilà, j'ai un espèce de baromètre. Je demande en arrivant comment vous avez trouvé Calvi. Encore aujourd'hui, vous vous tapez à 9 sur 10. C'est quand même incroyable. Cette constance dans la performance.
Cette bienveillance me fait beaucoup.
Mais je vous en prie, à demain.
Bonne émission.
Allez, ça marche.
Vous écoutez RTL.